Notre invitée ce soir, c'est Marie-Aurore Daouance. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comédienne, vous êtes à l'affiche à partir de demain, de Pas pleurer, au Théâtre de Poche à Bruxelles. Comment vous vous sentez? C'est demain, donc c'est un peu...
Stressée.
Oui.
Ouais. Et puis aussi contente que ce jour arrive enfin.
C'est un projet important pour vous. Hein. Donc, Pas pleurer, c'est l'adaptation du roman de Lydie Salver, qui a eu le prix Goncourt en 2014, mm-hmm. C'est ça, oui.
Ouais.
Alors, c'est votre compagnon, Denis Lojol, qui est aussi comédien et metteur en scène, qui a eu envie d'adapter ce texte. C'est un roman, donc c'est déjà un gros travail d'adapter ça pour le théâtre. On peut peut-être raconter l'histoire en quelques mots.
Denis m'a offert ce roman à sa sortie. Je l'ai lu. De fait, ça me touchait énormément parce que ma mère est espagnole. C'est l'histoire d'une mère qui raconte à sa fille et sa fille qui s'empare de l'histoire de sa mère pour nous la transmettre. Enfin, il y avait toute une histoire de filiation et de transmission. Et à ce moment-là, on voulait faire un enfant. Mmh. Et puis donc, il y avait l'histoire d'Espagne sous-jacente.
Oui.
Qui est quand même très forte. Puis après, lui l'a lu. Puis quand lui l'a lu, il a dit « il faut qu'on en fasse quelque chose ». Du coup, il a écrit à Lydie Salver directement, parce que c'est là que ça commence, un projet. Soit la personne accepte qu'on en fasse quelque chose, soit elle n'accepte pas. Lydie Salver nous a répondu dans l'heure que ce projet l'enchantait et que ce soit avec la femme qu'il aime, ça l'enchantait. Enfin, voilà, on a été directement porté par Lydie Salver, quoi.
Oui.
Et donc, à partir de ce moment-là, tout s'est passé assez rapidement, malgré tout, quoi.
Alors, c'est l'histoire d'une maman hein, qui est une vieille dame qui a 90 ans, ouais. Qui raconte à sa fille, sauf que cette vieille dame, elle n'a plus beaucoup de mémoire. Et le seul moment clair de sa vie, c'est une période bien précise. C'est vers 1936, par là, pendant la guerre d'Espagne. Et elle raconte à sa fille cette période de sa vie qui est déjà très, très loin. Sa fille va découvrir les choses et s'en emparer, comme vous dites, pour transmettre ensuite...
À nous. À nous tous. Et donc, elle s'empare de la langue de sa maman aussi, qui donc parle pas forcément très bien français. Elle fait un mélange du français et de l'espagnol, qui s'appelle le fragnol. Mm-hmm. Et donc, elle écrit dans cette langue très poétique les moments où sa mère lui explique. Et puis, elle, après, elle retransmet aussi ses propres pensées par rapport à ça. Puis, le texte est aussi entrecoupé de séquences de Bernanos, qui s'est rendu compte, à la base il était monarchiste et il était franquiste et tout, et il s'est rendu compte que en fait le franquisme n'était pas nécessairement très très positif et tuait des gens.
Mm-hmm.
Et donc voilà, il a écrit tout un livre là-dessus, Grand cimetière sous la lune.
Comment ça s'est passé l'adaptation, parce que on le disait tout à l'heure, passer d'un roman à un spectacle pour la scène, c'est quand même un sérieux travail d'adaptation.
Oui, ça c'est le travail de Denis. Donc c'était un gros boulot. Après, Lydie Salver, qui a quand même aussi beaucoup écrit pour le théâtre, a une formule aussi. Enfin, il y avait quelque chose dans ce roman qui existait,
déjà
de théâtral.
Oui.
Après, voilà, on en a pas fait. Je pense que c'est 200 ou 300 pages le bouquin. On en est à 22. Voilà, ça c'est Denis qui l'a fait parce que il a choisi. Il voulait parler d'un truc en montant ce spectacle. Il voulait pas raconter toute l'histoire qui était vraiment très grande. Donc il a dû évincer un peu des personnages, ouais. moins en parler, moins parler de vraiment comment c'était la vie dans le village, puis la vie après, puis enfin voilà.
Il voulait parler de quoi en fait?
Et ben il voulait parler de ce moment pas très connu en fait qu'on ne raconte pas trop dans les livres d'histoire, qui est que à un moment donné dans le monde, ça a été possible de vivre autrement. Il y a eu une utopie. Aujourd'hui, quand on parle des gauchos et tout ça, que souvent ils sont utopistes, ben ouais, mais cette utopie, elle a existé à ce moment-là en Espagne. Et donc, ça veut dire que les terres étaient collectivisées, les cafés étaient collectivisés. On était pour la gratuité de la culture. Voilà quoi, ça a existé. Donc... faut pas traiter les gens d'utopistes.
Ça résonne, hein. Aujourd'hui, ça peut résonner dans la tête de beaucoup de gens. Il y a aussi, c'est pas toujours très joyeux, hein, comme roman, donc c'est assez sombre, mais cela dit, pour ce que je m'en souviens, il y a quand même une belle part de lumière dans tout ça.
Mais c'est ça qui le touche D'abord, quoi, c'est la part de lumière. On sait comment ça se finit. La guerre d'Espagne, ça finit par Franco qui reste au pouvoir jusqu'aux années 70. Mais avant ça, y avait des femmes au pouvoir. L'avortement était légalisé en Espagne. Voilà. Et puis, il y a cette partie historique qui est fort sombre aussi et fort pesante. Mais il y a aussi cette histoire de cette mère et de cette fille qui trouvent une complicité à raconter l'histoire, chacune de leur point de vue et chacune de leur façon.
Vous l'avez dit, votre maman est espagnole, hein,
ouais.
Catalane, je pense.
Oui, de Barcelone. Ouais.
Vous gardez un lien aussi avec la Catalogne et avec cette région de l'Espagne où vous, visiblement, vous allez régulièrement. Est-ce que c'était d'autant plus important pour vous de pouvoir parler de ça?
Je pense que oui. Je crois que je ne me l'étais jamais dit. J'y avais jamais pensé foncièrement. En fait, jusqu'à... Quand j'avais 13 ans, je trouvais que j'étais pas belge, que j'étais espagnole parce que je me sentais différente, je suis liégeoise et tout, donc voilà, je me sentais pas d'ici quoi, et je croyais que du coup j'étais espagnole et tout. Et quand j'ai eu terminé mes humanités, je suis allée vivre un an à Barcelone et là je me suis rendu compte que j'étais pas espagnole, que j'étais pas catalane et que je ne le serais jamais et que donc j'avais cette richesse d'être de là un peu et beaucoup d'ici et voilà. Et quand Denis m'a parlé de ce projet et tout, d'un coup je me suis dit ah mais ouais, mais même moi je me suis jamais vraiment intéressée à cette période de l'histoire, et alors que ça fait partie de mes racines en fin de compte.
C'était une manière de renouer,
je pense. Ouais.
D'autant plus que vous êtes devenue maman entre-temps, donc vous avez quelqu'un qui transmettre aussi.
C'est ça.
Ouais, c'est marrant comme parfois toutes les choses se mettent en place. Hein. Vous parliez du fait que ce roman vous a flashé parce que c'est une mère qui parle à sa fille. Après, vous devenez maman, il y a quelque chose à transmettre.
Et on a eu une fille.
En plus.
On a eu un petit garçon, on a eu une petite fille. Ouais.
Le spectacle s'appelle Pas pleurer. Il est à voir à partir de demain au Théâtre de Poche. Marie-Aurore Daouan, c'est notre invitée aujourd'hui. On a parlé de Pas pleurer, ce spectacle proposé demain au Théâtre de Poche à partir de demain et jusqu'au 8 avril. Marie-Aurore, vous n'êtes pas seule sur scène, hein, il fallait amener quelque chose en plus. Il y a une musicienne qui permet d'avoir un dialogue.
Un dialogue, une nappe, ça soulève un peu, ça porte le texte et les mots, quoi.
Il y a aussi un peu de, on le disait pendant le disque, je disais un peu de danse, vous me disiez non, du mouvement. Et puis on est tombé d'accord sur chorégraphie finalement.
Ouais, chorégraphie, mouvement, c'est pas vraiment des pas fixes, voilà. Mais il fallait porter aussi ça dans le corps, quoi.
Ouais, vous avez une formation de danseuse. Vous avez fait de la danse en tout cas.
Il y a très longtemps,
vous en avez fait beaucoup, donc vous savez ce que c'est. Dans cette émission, on parle un peu des rêves. Vous vous souvenez de vos rêves de petite fille, en fait, de ce que vous aviez envie?
J'ai voulu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai voulu être petit rat de l'opéra.
C'est comme ça que vous avez commencé la danse, avec cette envie-là?
Non, je pense pas. Je pense que c'est pendant que je faisais de la danse que, à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie d'être petit rat de l'opéra. j'ai voulu être fleuriste.
Pourquoi fleuriste?
Je sais pas. J'aime bien les fleurs, les plantes. Océanologue aussi. Ça, pendant très longtemps, j'ai voulu être océanologue. J'avais écrit au capitaine Cousteau.
Il vous a répondu?
Oui. Hein? Je ne suis pas sûre que c'était lui, mais il m'avait renvoyé une cassette sur les dauphins.
Que vous avez usé?
Oui, quand même.
À quel moment ça s'est dessiné alors, cette envie de monter sur scène? Il y avait peut-être à être petit rêve de l'opéra, c'est de la scène, mais cette envie d'être comédienne?
Plus tard, j'ai arrêté la danse quand c'est devenu trop difficile, quand il a fallu faire des choix entre peut-être une vie sociale et en fait s'enfermer dans une salle et répéter et s'entraîner et tout ça. Et j'étais pas trop faite pour ça. Je préférais sortir et fumer des cigarettes et boire de la bière.
Compatible.
Et alors quand j'ai arrêté la danse, par contre, je me suis inscrite à l'académie à Liège et j'ai fait cette diction, déclamation. Et petit à petit, c'est venu petit à petit. Puis quand j'ai eu terminé les secondaires, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et comme j'avais envie de faire plein de choses, je me suis dit, tiens, comédien, ça a l'air de brasser pas mal, quoi. Et voilà.
Vous vous rappelez de votre première montée sur scène?
Oui, à mes examens de l'académie, quoi. Je sais pas, c'était drôle parce que c'était là je repense à une scène qu'on faisait et c'était le Père Noël est une ordure donc c'était plutôt drôle.
Mais vous avez vécu ça comment? Ça a été comme...
Bah bien. Moi j'étais plutôt bien. Ça me faisait du bien en fait de faire ça. En fait, ce que j'aime dans le métier de comédienne, c'est dire les mots de quelqu'un d'autre en fait, pas devoir réfléchir à qu'est-ce qu'on doit dire, si on le dit bien, si on le dit pas bien. Est-ce que c'est intelligent, est-ce que pas? Non, voilà, c'est écrit, c'est quelqu'un qui s'est chargé de ça, et puis il faut le porter, quoi. Et voilà, ça, je trouve ça assez libérateur, en fait.
Vous n'auriez pas envie d'écrire, vous? C'est peut-être...
Si, c'était un autre rêve quand j'étais petite, tout à fait, être écrivain. J'ai commencé il y a 2 ans un blog qui parlait de Denis.
Oui. Il faut dire que Denis Lojol, donc qui est metteur en scène et qui a adapté ce spectacle, c'est aussi votre compagnon, mais il a fait un spectacle qui s'appelait Porteur d'eau, qui parlait de sa passion pour le cyclisme et de son passé de cycliste semi-professionnel, je me souviens bien. Il a aussi fait un autre spectacle, Éloge du mauvais geste, qui parlait de football. Et donc, vous avez fait un blog où vous étiez la femme du cycliste. Hein.
Ouais, parce que donc, du coup...
C'était assez drôle d'ailleurs, je me souviens.
Denis, à un moment donné, il a recommencé le vélo un peu en parallèle que ce spectacle, même si je pense que c'était pas tout à fait pour le spectacle, mais c'est plutôt pour lui. Et du coup, je me suis retrouvée étant femme de gonze d'un cycliste, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'écrivais, c'était quoi vivre avec un cycliste qui doit partir pendant des heures pour faire ça, que ça doit être plusieurs fois par semaine. Enfin bon, voilà. Et du coup, je me suis prise au jeu, quoi. Ouais, tout à fait. Et j'ai adoré écrire. Et du coup, là, mais bon, avec un bébé et tout ça, il faut que je m'y remette, mais c'est un truc auquel je pense régulièrement.
Il est encore accessible, ce blog ?
Oui.
On va mettre l'adresse sur la page Facebook d'On croit rêver, comme ça, si vous voulez aller jeter un œil. C'était plutôt drôle et plutôt réjouissant à lire ce blog de la femme du cycliste. Marie-Aurore Dahance, invitée de On croit rêver ce soir. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Et puis, je rappelle qu'il y a un site théâtre pour le théâtre de poche, théâtredepoche.be. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les infos concernant cette pièce de théâtre à voir dès demain sur la page Facebook. C'est bizarre comme injonction, pas pleurer.
Oui.
On aurait tendance aujourd'hui à dire laisse couler tes larmes.
Oui, après, il faut lire le livre ou voir le spectacle, mais c'est surtout pas pleurer, pas s'apitoyer, quoi. Je pense que sa maman a dû mordre un peu sur sa chic pour continuer à avancer et tout ça, et que s'apitoyer, ça faisait pas partie de l'équation. Il fallait continuer à avancer avec cette fierté sûrement très espagnole ou très, très du sud, très ibérique, la tête haute, quoi.
Il y a quelque chose de culturel là-dedans, dans le fait de pas s'apitoyer, de pas...
C'est parce qu'on dit souvent que les Espagnols sont fiers, puis là, elle en parle un peu dans le livre, elle le dit un peu comme ça, donc... Oui, après, je pense pas des peuples qui s'apitoient plus que d'autres, mais c'est peut-être dans ces moments plus tragiques ou plus difficiles de la vie, l'homme a quand même tendance à vouloir lever la tête plutôt qu'à se laisser abattre, quoi. C'est quand même pas mal.
Ouais, ça aussi, hein, ça résonne pas mal aujourd'hui avec ce qui se passe. Et puis, à 2 jours de la commémoration des attentats, c'est aussi parlant. Mmh. Marie-Aurore Dahance, dernière question, ça se termine toujours comme ça. C'est quoi votre petit bonheur du jour? Le petit truc qui fait que quand vous vous coucherez ce soir, la journée valait la peine d'être vécue?
Ouais, c'est difficile pour l'instant parce qu'en répétition, tout ça.
Justement, il y a forcément une minute à sauver sur la journée.
Ouais, alors, voilà, je vais faire ma maman. Ouais. C'était Louisette ce matin, quoi.
Votre petite fille.
Ouais.
Ouais.
Qui est souriante et voilà.
Ouais. Au réveil, qui a 9 mois, hein, c'est ça.
C'est ça.
Écoutez, ça va être rock'n'roll, hein, les soirées qui arrivent avec le spectacle et le reste.
Ce sera plutôt sans moi, donc. Voilà.
Bon. À voir donc dès demain au théâtre de poche, pas pleurer. Merci Marie-Aurore.
Merci,
merci d'être passée par chez nous. À bientôt.